Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte une histoire terrible. L'histoire de parents à qui on dit « Votre petit bébé Gaspard est atteint d'une grave maladie. Il va mourir dans 4 ans. » Imaginez la scène. Vous en avez peut-être vécu, vous-même, des moments comme ça. Un papa qui débarque à la maternité avec ses 3 enfants pour venir voir maman et le minois du petit frère, du petit dernier. C'est un moment très fort. Très fort. Le 30 août 2013, Benoît, 32 ans, débarque donc à la maternité de Rennes avec ses 3 enfants, Sybille, Louise et Arthur, pour leur faire découvrir, dans les bras de maman, Marie-Axel, leur petit frère qui vient de naître, Gaspard. Les grands ont apporté des peluches, un petit lapin et un ourson. On n'oublie pas ces moments-là. Jamais. Surtout quand on a voulu une famille nombreuse, quand on croit à la famille. Et puis voilà, 3 jours plus tard, Marie-Axel rentre à la maison avec le petit Gaspard dans ses bras. Et là, je dois vous dire quelque chose que vous n'êtes pas obligé de croire. Mais Marie-Axel, pile à ce moment-là, quand elle rentre chez elle, dit qu'elle a un mauvais pressentiment. C'est difficile à décrire, une angoisse, quelque chose qui lui noue le ventre. Un truc en tout cas qu'elle n'avait jamais ressenti à la naissance des 3 premiers. Et qui ne s'appuie pour l'instant sur rien de rationnel. Son instinct de mère, peut-être, qui se traduit dans l'immédiat par une préoccupation. Il ne faut pas qu'il attrape froid. Alors elle le couvre, elle l'emmaillote comme elle ne l'a jamais fait avec les aînés. Et puis les semaines passent. Elle trouve que Gaspard est calme, mais à part ça, tout va bien. Arrive le baptême, 2 mois plus tard. À l'église, Marie-Axel, qui est croyante, fait une prière à la Sainte Vierge. Toujours avec ce sentiment que Gaspard est fragile. Marie, je vous confie Gaspard. S'il nous arrive quelque chose, prenez soin de lui. Et là, en plein baptême, au milieu de ses parents, de ses beaux-parents, toute la famille est là. Elle sent monter en elle une terreur et elle éclate en sanglots. Et ensuite, il faut enchaîner. Il y a une petite fête, bien sûr. Et c'est là que l'un des oncles du petit Gaspard fait une remarque, sans méchanceté, mais cruelle. C'est étrange. On dirait que Gaspard a toujours sa petite langue sortie. Et là, d'un coup, Marie-Axel a le ventre qui se noue. Parce que bien sûr, elle l'avait remarqué, sa petite langue qui est toujours sortie. Mais l'image était restée coincée entre ses yeux et ses méninges, sans doute. Elle n'avait pas verbalisé.
Ça a été le premier petit détail qui nous disait... Enfin, qui m'alertait, en tout cas. Qui me disait, il y a quelque chose, quand même, chez cet enfant. Pourquoi il respire la bouche ouverte et pourquoi il sort toujours ce petit bout de langue?
Et puis après, on enchaîne. Parce que Gaspard, à part ça, ça va. Il a toujours sa petite langue qui dépasse, mais c'est un beau bébé et un bébé rieur, en plus. Et puis, au fil du temps, ce sont des détails qui vont venir s'ajouter les uns aux autres. D'abord, Gaspard fait de l'eczéma. Ensuite, il a les bronches encombrées. Et puis, il ne tient pas assis. Pire, quand on le porte dans les bras, sa tête pèse de tout son poids. Son cou ne tient pas sa tête.
À chaque fois, j'ai dit, Gaspard est un enfant particulier, Gaspard est un enfant différent. Il est différent de mes 3 aînés, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose de différent.
Elle tâte le terrain auprès d'amis. Ça m'inquiète un peu. J'ai l'impression que Gaspard est, je ne sais pas, trop calme. C'était pas comme ça avec les grands. Il est différent. Et là, elle se dit, Et si Gaspard était handicapé? Elle, elle se pose la question. Mais Benoît, son mari, il n'est pas inquiet. Ils sont allés voir des médecins, plusieurs médecins, pour avoir leur avis. Ils ont tous été rassurants.
Ne vous inquiétez pas. Gaspard prend son temps, c'est tout. Il a à peine 9 mois. Tous les enfants ne s'assoient pas forcément à cet âge-là.
Marie-Axelle décide quand même de consulter un kinésithérapeute. À l'intuition, comme ça, sans prescription médicale. Elle sent que son bébé n'a pas le dos assez musclé. Et au bout d'un mois, aucun progrès.
J'ai amené Gaspard chez un kiné, 2 fois par semaine. J'allais avec ma petite poussette et lui dedans, chez une kinésithérapeute, pour aider Gaspard à comprendre son mécanisme, le fonctionnement de son corps, et qu'il ait envie de se tourner d'un côté et de se tourner de l'autre. Là, je sentais bien que la kiné, elle était un peu inquiète aussi. Mes questions étaient sans réponse et elle me demandait de continuer à aller voir des médecins.
Au tout début de l'été 2014, toute la famille déménage à Paris. Et Marie-Axelle décide de prendre rendez-vous avec un neuropédiatre de l'hôpital de Garches. C'est l'un des temples de la médecine en banlieue ouest de Paris. Et là, il faut patienter, bien sûr. Rendez-vous fin août. Bon, eh bien partons en vacances, en Auvergne, chez les grands-parents. Toute la Smala est là, les oncles, les tantes, les cousins, il fait beau, il y a la piscine. Mais Gaspard, lui, il a toujours la tête aussi lourde. Quand on veut l'asseoir, il a le dos qui s'affaisse. Marie-Axelle ne voit que ça. Mais autour, ça n'a l'air de gêner personne. Fin juillet, Gaspard vient d'avoir 11 mois. Marie-Axelle décide de consulter un médecin généraliste du coin. Et lui, le généraliste auvergnat, il voit tout de suite qu'il y a un problème. Et il les dirige en urgence vers le service de pédiatrie de l'hôpital de Montluçon. Et le pédiatre ébauche un début de diagnostic.
Il est hypotonique, votre enfant.
Hypotonique ?
Oui, c'est-à-dire qu'il manque de tonicité musculaire.
Mais il va marcher un jour ?
Écoutez, je ne sais pas. Il faudrait passer des examens complémentaires.
C'est seulement à partir de ce moment-là que Benoît commence à entendre les inquiétudes de sa femme. Et encore, sans paniquer. Ils savent à ce moment-là qu'ils ont ce rendez-vous à Garches, fin août. Et en attendant, qu'est-ce que vous feriez, vous ? Google, évidemment. Hypotonie. Ne tient pas assis. Ne tient pas sa tête. Marie-Axelle fait le tour d'Internet. Les sites spécialisés, les forums, les sérieux et les charlots. Et elle tombe sur des dizaines d'hypothèses. Elle lit des pages et des pages sur les maladies neurodégénératives. Des maladies qui attaquent le système nerveux et qui ont tout un point commun. Elles sont très graves. Et puis, fin août, arrive le rendez-vous chez la neuropédiatre de Garches. Et dans la salle d'attente, Benoît et Marie-Axelle sont dans le bain. Sur les tables, il y a des flopées de prospectus sur les maladies neurologiques. Et des affiches du même tonneau au mur. Dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, autisme, troubles neurologiques, troubles psychomoteurs.
Bonjour messieurs, dames.
La neuropédiatre les fait entrer dans son cabinet et les parents racontent leur histoire.
Bon, écoutez, on va procéder par étapes, pour y voir plus clair. On va commencer par lui faire passer une IRM, et puis réaliser une prise de sang. Ça vous va ?
L'IRM est une épreuve pour la maman. Voir son petit Gaspard lardé de bandelettes blanches comme une momie, avec ses 2 petits yeux bleus qui dépassent, et cette machine qui va délivrer un verdict, c'est une épreuve. Et quand c'est fini, Marie-Axelle prend Gaspard dans ses bras.
T'inquiète pas, mon cœur. Allez, c'est fini. Ça va aller maintenant.
On leur présente un kinésithérapeute de l'hôpital, Corinne. Elle va s'occuper de Gaspard le temps que le diagnostic se précise. Elle veut le voir 3 fois par semaine. Et Marie-Axel comprend que l'hôpital de Garches est en train de devenir sa 2e maison. Le verdict tombe fin septembre. Un coup de fil de la neuropédiatre de Garches. Elle veut les voir tous les deux. Dans le livre, Marie-Axel écrit « Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'hôpital ne convoque jamais les deux parents s'il n'y a pas quelque chose d'important à annoncer. Je vais peut-être enfin savoir ce qu'a notre chaton. » Dans le bureau, ils sont 2 médecins et 1 interne pour leur annoncer la nouvelle. Et ils ne vont pas droit au but.
Comment ça se passe avec Gaspard ?
Et là, Benoît, en plein déni, répond.
Ben ça va, il se porte bien. J'ai l'impression qu'il progresse.
Mais là, Marie-Axel dit qu'elle n'est pas d'accord, qu'il ne progresse pas, qu'il ne se porte pas bien. La neuropédiatre hoche la tête et doucement, tout doucement, elle leur dit. Gaspard ne pourra pas progresser. Il est atteint d'une maladie génétique, rare et sévère. C'est la maladie de Sandow.
Là, on a pleuré tous les deux. Parce que mon mari n'avait pas lu ce qu'était cette pathologie, mais moi, je savais déjà ce qu'on allait me dire après.
La maladie de Sandow ? Oui, c'est pour cette raison qu'il n'arrive pas à s'asseoir et à tenir sa tête. C'est une maladie neurodégénérative, comme on dit. Et malheureusement, il n'existe aucun traitement adapté. Ça veut dire qu'il va mourir ? C'est une maladie génétique, madame. Petit à petit, ses muscles vont cesser de fonctionner. Son espérance de vie est de 4 ans environ. Je suis désolé.
Benoît et Marie-Axel se prennent la main. Ils ont les larmes aux yeux.
On avait en tête toute cette négation, tout ce négatif. Gaspard ne fera pas. Et fort de tout ça, je me suis dit, bah, certes, Gaspard ne fera pas. Et cette neuropédiatre avait vraiment eu raison de nous dire tout ce qu'il ne fera pas. Mais là, je me suis dit, ok, on sait tout ce qu'il ne fera pas. Mais il fera. Il fera. On sera là pour l'entourer, pour lui donner le plus d'amour possible. Mais il fera. Il fera de belles choses, il fera peut-être de petites choses, mais on l'entourera.
Dans son livre, Marie-Axel écrit « Nous sommes au pied d'une montagne. Il nous faut à présent la gravir tout en apportant à notre enfant du bonheur et tout l'amour dont nous sommes capables. Je n'accueille pas la maladie avec bienveillance. Elle va m'enlever mon tout petit, le fruit de mes entrailles. Mais j'accepte la maladie parce qu'elle s'impose à moi. Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas lui refuser l'entrée de la maison. » Et ensuite, naturellement, vient le temps des pourquoi. Pourquoi lui ? Pourquoi Gaspard ? Et pourquoi nous ? Pourquoi est-ce que ça nous arrive ? On ne peut pas éviter ces questions. Et après, le temps des comment ? Comment l'aider ? Comment le soulager ? Comment expliquer la maladie à ses frères et sœurs ? Et puis bêtement, comment on va faire ? Dans l'immédiat, Gaspard est pris en charge à l'hôpital de Garches, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Qui va s'en occuper ? Alors les parents se mettent à monter un dossier pour une prise en charge par la maison départementale pour handicapés. Marie-Axel écrit « Il nous faut tous vivre, sachant que la mort est au bout du chemin. N'allons-nous pas tous mourir un jour ? La perspective de notre inéluctable mort ne nous empêche pas de vivre. Alors le fait de savoir qu'il va mourir ne m'empêchera pas de le faire vivre. Je m'en fais la promesse. » La maison départementale répond en quelques jours. C'est assez rare pour le noter. Et elle accorde une aide. Gaspard sera pris en charge à la maison. Et voilà comment Christine, Florine, Marco, Patricia, Caroline, Angélique, qui sont éducateurs, psychomotriciens, ergothérapeutes, pédiatres, psychologues, kinésithérapeutes, médecins rééducateurs, entrent dans la vie de la famille. Début 2015, un gastro-entérologue suggère une opération.
Il faudrait pratiquer une gastrostomie. Ça réglerait des problèmes de déglutition qu'il a. Et puis, ça permettra de le nourrir quand il ne pourra plus s'alimenter par la bouche.
Une gastrostomie. Sur un bébé, c'est très rude. Ça consiste à installer un tube dans l'abdomen relié directement à l'estomac, au bout duquel on connecte une poche de lait. Et là, il faut faire le deuil du petit ventre tout rond et tout lisse de Gaspard. Et il faut aussi faire le deuil de son rire. Parce que Gaspard ne rit plus. Il sourit, parfois, mais plus un seul son ne sort de sa bouche. Il ne pleure plus, non plus. Au mieux, il fronce les sourcils. Marie-Axelle s'est adaptée. Elle a mis au point tout un système pour communiquer avec Gaspard.
Si tu veux que je te lise une histoire, tu me serres le doigt, d'accord? Si tu préfères une chanson, tu regardes maman. Ou si tu veux te reposer, ben, tu bouges tes petits sourcils, d'accord?
Et ce qui est terrible, c'est que quand Gaspard lui fait un signe, ou ce qu'elle croit être un signe, elle n'est jamais vraiment sûre d'avoir compris. Alors elle lui dit à voix basse,
« Excuse-moi, si ce n'est pas ce que tu m'avais demandé, mon petit cœur. »
En juillet 2015, Gaspard va avoir 2 ans. Et toute la famille part en vacances à Aix-en-Provence. Et partir loin de Paris avec Gaspard, c'est toute une histoire. Il faut trouver un kiné sur place, et prévenir les hôpitaux alentours en cas de problème, repérer les services de neuropédiatrie et ceux de réanimation, et surtout leur faire savoir ce qu'ils ont décidé, tous les deux. En cas d'urgence, ils ont rédigé ce qu'on appelle une fiche de directive anticipée. Ils ne veulent pas d'acharnement thérapeutique, pas de réanimation, pas d'intubation. À la fin de l'été, retour à Paris. Gaspard a 2 ans et sa maladie continue de progresser. Désormais, il ne peut presque plus rien avaler. Il mange encore des crèmes et des yaourts, mais rien d'autre. Et c'est là que le tube qui a été installé dans son petit ventre entre en action. Marie-Axelle écrit « La maladie m'impose d'arrêter de le nourrir moi-même. Je n'ai plus de cuisine à faire pour lui, plus de recettes à inventer, plus de plats à préparer. Cette épreuve s'ajoute à toutes les autres, et je m'endeuille encore, et à nouveau, un peu plus. Ça fait un peu plus d'un an que le diagnostic est posé, et la santé de Gaspard se dégrade encore. Maintenant, il a du mal à respirer. Une infection des bronches, avec de la fièvre. Il faut l'hospitaliser. Et Benoît, le papa, supporte de plus en plus mal de ne pas pouvoir le soulager. Il se sent impuissant, et il est impuissant.
Je l'ai écouté respirer. Je l'ai regardé. Je l'ai embrassé. Il veut juste ça. Il veut juste que je l'aime. Il ne veut pas que je le guérisse. Il ne veut pas que j'élabore des plans furieux pour après-demain. Il veut qu'aujourd'hui, je l'aime.
Et un soir, à l'hôpital, au pied du lit de Gaspard, Benoît se met à écrire, sur son ordinateur, des petits textes qu'il publie sur sa page Facebook. Et il n'en revient pas. Ces textes sont partagés par des milliers de personnes et on lui envoie des messages de soutien de partout. C'est à partir de là qu'avec Marie-Axelle, il crée une page Facebook entièrement dédiée à Gaspard. Gaspard entre terre et ciel, c'est le nom de la page. Et c'est comme ça que se constitue autour d'eux et de leur drame une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'internautes. Est-ce que ça leur fait du bien? Je leur demanderai dans un instant. En attendant, le début de l'année 2016 est très difficile. Gaspard est rentré à la maison, il n'a plus d'infection, mais maintenant il a des spasmes musculaires. D'un coup, ses yeux se fixent et il devient tout mou, comme une poupée de chiffon. Signe que son cerveau ne commande plus ses muscles. En avril, l'état de Gaspard se détériore encore. À nouveau de la fièvre et les bronches encombrées, il faut le placer en réanimation sous antibiotiques. On a franchi un nouveau cap. C'est la dernière ligne droite. qui se concrétise dans un terrible rendez-vous avec un médecin en charge des soins palliatifs en pédiatrie. Il s'agit d'accompagner Gaspard vers sa fin de vie. C'est un rendez-vous terrible, vous imaginez, on y parle réanimation, assistance respiratoire, trachéotomie. Comment savoir le jour venu? Quoi faire? Qui appeler? Et là, Benoît et Marie-Axelle ont les idées très claires. Ils veulent que ça se passe en HAD, c'est-à-dire en hospitalisation à domicile, pas à l'hôpital, à la maison.
Ça a été très dur de faire comprendre aux médecins de l'hôpital de Garches que on voulait mettre Gaspard en HAD. Mais on a quand même réussi. On a quand même réussi parce qu'on a essayé de montrer qu'on était capable d'être des parents qui entouraient notre enfant en HAD.
Et Gaspard quitte l'hôpital dès le lendemain. À dater de ce moment-là, Marie-Axelle et Benoît savent que Gaspard peut s'éteindre à n'importe quel moment. Alors ils ne le lâchent plus d'une semelle. Ils sont terrorisés à l'idée qu'il pourrait s'en aller sans eux. Marie-Axelle écrit : à partir de ce jour-là, je crains de m'éloigner de Gaspard, ne serait-ce que pour prendre une douche. J'imagine des scénarios atroces. J'accélère pour me shampouiner, je laisse la porte ouverte pour écouter mon chaton respirer depuis sa chambre. J'angoisse dès qu'une inspiration saute ou qu'un gargarisme indique une nausée. Sitôt le pommeau de la douche raccroché, le peignoir endossé, ruisselante, je bondis près de lui et je ne me calme qu'en l'embrassant. Et puis arrive l'été 2016. Et chacun a bien compris que c'est le dernier été de Gaspard. Gaspard fait sa dernière sortie en famille, au mariage de son oncle et de sa tante, en Auvergne. Il est assis dans sa petite poussette bleue, habillé comme les autres, en garçon d'honneur. Le 30 août, pour ses 3 ans, ses parents installent une petite table dans sa chambre, tout près de son lit. Ses frères et ses sœurs sont là. Il y a un gâteau et 3 bougies, et on chante tout doucement. Joyeux anniversaire, Gaspard. Joyeux anniversaire. En janvier 2017, on est au bout. Gaspard s'affaiblit jour après jour. Marie-Axelle et Benoît le soulagent autant qu'ils peuvent. On diminue lentement ses doses de nourriture. Son corps ne les supporte plus. Le 31 janvier 2017, une dernière fois, Marie-Axelle prend son fils dans ses bras. Elle l'enveloppe dans une grosse couverture et elle le câline pendant des heures et des heures. Dernier moment de tendresse, jusqu'au dernier souffle de vie.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.